Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Église de Locmaria, Quimper, novembre 2025. Nos ribines vont y suivre les sentiers du son, de la musique telle qu'on la pratiquait au Moyen-Âge et même avant, dès l'Antiquité. Lors de cette expérience de 3 jours, la science et la musique se sont retrouvées pour partager une résidence de recherche à Quimper, et donc plus particulièrement à l'église de Locmaria, sous l'impulsion d'une femme. Elle est chercheuse et enseignante en musicologie à l'université de Rennes 2, et elle a rencontré une autre femme du XIIe siècle.
Géraldine Godefroy-Monbine. J'ai commencé à travailler sur Hildegarde de Bingen, sur sa musique, grâce au contact avec Marcel Pérez en 2019. Avec Marcel Pérez, on a réalisé un colloque en 2021 à Moissac, là où Marcel Pérez est en résidence.
Je m'appelle Marcel Pérez et je suis musicien. J'étudie la musique en fait. J'essaie de comprendre pourquoi et comment les humains font de la musique. Et pour le faire, j'essaie non seulement d'observer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la musique, mais de remonter le temps et de voir dans les témoignages du passé comment les humains pratiquaient la musique, comment la musique était un lien social, comment la musique était un lien également avec toutes les dimensions métaphysiques de l'existence. Et Hildegarde de Bingen, c'est un phénomène passionnant. Ça fait vraiment être passionnant parce qu'elle a vécu au XIIe siècle. Elle a eu un impact sur son époque, mais enfin un impact dans sa sphère. Hein, là. On ne peut pas s'imaginer que tout le monde connaissait Hildegarde de son vivant. Et puis elle est pratiquement sortie de la mémoire. Il est intéressant de voir que Hildegarde a commencé à renaître en fait, à la fin du XXe siècle, dans les 30-40 dernières années du XXe siècle. Et elle a commencé à revivre, non pas dans des sphères ecclésiastiques ni nationalistes, mais dans des sphères plutôt reliées au New Age. Vous voyez ? Donc c'est un phénomène. Tout d'un coup, le New Age s'intéresse à une bénédictine très féodale, vous voyez, parce qu'elle avait une mentalité très féodale. Elle était petite fille d'empereur, donc elle était issue de la haute noblesse. Et puis les féministes sont emparés de cette figure aussi. Elle est devenue assez célèbre. Et puis on s'est aperçu qu'elle avait écrit aussi des traités de médecine et des traités de nutrition. Et ça arrivait à un moment particulier, à la fin du XXe siècle, où tout d'un coup nos contemporains se sont aperçus qu'on s'empoisonnait un peu avec ce qu'on mange, que la médecine officielle a ses limites. Enfin bon, avec un besoin instinctif, vraiment instinctif, de retourner à des choses plus simples, plus réelles, plus naturelles. Le mérite de Hildegarde, c'est qu'elle a écrit ses connaissances qui étaient empiriques, elle les a écrites, et puis en plus, en bonne allemande, parce qu'elle est très allemande quand même, elle a classé les choses, elle a mis les choses en ordre. Alors, une des premières choses qu'on a voulu faire avec Géraldine, lorsqu'on a commencé à structurer ce projet, c'est de rétablir la véritable image, ou alors une image d'Hildegarde qui soit plus proche de ce qu'elle était. C'est comme ça qu'on avait organisé à Moissac, où j'ai créé ce centre de recherche, un colloque sur Hildegarde et les potentialités thérapeutiques de sa musique, avec comme objectif de définir ces deux notions, déjà thérapeutique, qu'est-ce que ça veut dire, parce que thérapeutique, et entre un cancer, une dépression, enfin bon, c'est pratiquement infini les déclinaisons. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire ce mot thérapeutique? Et puis après, Hildegarde, de qui parlons-nous?
Il faire de l'art un chemin scientifique, très fertile, avec beaucoup de pratiques, puisque nous expérimentons surtout la recherche à partir de la pratique, donc ça s'appelle de la recherche-action. On n'est pas seulement des rats de bibliothèque, on essaye de pratiquer la musique et de sentir la musique, et c'est bien fait, puisque le but du jeu, c'est, sur la thématique musique et santé, de contacter les grands enseignements d'Hildegarde, qui étaient, elle était botaniste, elle était médecin et compositrice, et chantre, donc elle était chef de chœur, elle faisait chanter des moniales. Et elle faisait chanter parfois 12 heures par jour des moniales lors de grandes fêtes. Et donc on s'est interrogé du point de vue de la neuroscience de la musique si justement le fait de chanter longtemps et dans un cadre précis qui est la liturgie chantée, on ne pourrait pas observer des modifications du cerveau bénéfiques à l'humain. Et aussi bénéfique aux plantes, parce que nous expérimentons, nous lançons un projet. Nous avons déjà lancé un projet européen sur l'impact de la musique de l'Hildegarde sur la croissance des plantes. Et alors c'est un projet aussi très de vulgarisation scientifique, parce qu'on est attaché à la transmission des connaissances en direct. C'est ce qu'on fait ici à Quimper. On a vraiment à cœur de transmettre de manière directe nos idées, nos recherches, et en faire bénéficier directement au public, pour que ce public... qui peut venir ici à Locmaria de Quimper comme aujourd'hui, viennent chanter avec nous, chercheurs, artistes, et ressentir dans sa chair, dans son cerveau, dans ses émotions, toutes les qualités sonores, parce que le but du jeu, c'est justement d'évaluer les qualités acoustiques de cette musique d'Hildegarde de Mingen. Venir partager ces qualités acoustiques, ressentir les vibrations qui, on le sait maintenant dans la littérature, sont bénéfiques à l'humain, et de manière générale au vivant. Et alors l'idée est un peu originale, même je pense originale, avec Marie-Hélène de Lavoroux, dans ce projet de recherche à la Maison des Sciences de l'Homme de Bretagne, CNRS, c'était un rêve en fait, et aujourd'hui il a lieu, donc c'est un moment vraiment historique d'être là à Locmaria de Quimper.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la musique, à l'origine, c'est un tout, c'est physique, c'est corporel, c'est danser. Et l'un des ateliers consiste justement à chanter une musique de Grèce antique et à la danser en même temps.
Ici avec un geste apotropaïque, c'est-à-dire fait pour conjurer le danger. Et donc de là, on va faire bras gauche devant, bras droit derrière, tout le monde, le même bras et le même pied.
C'est Marie-Hélène Delavoroux, qui est maîtresse de conférences d'histoire ancienne de l'Université de Bretagne occidentale, qui dirige la chorégraphie.
Vers le sol, dans le geste de la Cair Cataprenes, qui est aussi un geste apotropaïque, répertorié par Pollux et Athénée. Et maintenant, je vais monter un bras et puis l'autre.
Il faut toujours avoir à l'esprit que quand on parle du mot cœur, une chorale, vous voyez, un cœur, ça vient de choreos.
Marcel Pérez.
Choreos, qui est la danse qu'on a encore dans chorégraphie en français. Donc un chœur, c'est des gens qui chantent et qui dansent. Vous voyez.
Alors, je m'appelle François Camp, donc je suis philologue et musicologue. Je dirige le Chœur antique de la Sorbonne, où nous proposons des récitals, des spectacles avec de la musique, qui est donc pour partie reconstituée, sur laquelle je travaille. Afin de faire mieux connaître ce répertoire et puis d'explorer un champ musical peu connu et intéressant au regard du projet qui est le nôtre ici ce week-end à Locmaria.
Hildegarde von Bingen était certes une abbesse allemande, née en 1098 et morte en 1179, donc au milieu du Moyen-Âge, mais elle était de haute noblesse et très cultivée et elle était bien une héritière du passé musical antique.
Les musiciens, théoriciens, savants du Moyen-Âge et de la Renaissance avaient pour prémisse la culture antique et le savoir qui était à la fois géométrique, arithmétique, mais aussi acoustique, organologique de l'Antiquité. Un exemple, l'orgue est un instrument qui a été inventé par un ingénieur grec au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Ctésibios. Dans cet ordre d'idées, la musique médiévale, les théories médiévales, la musique médiévale, les pratiques, sont dans une forme d'héritage successif à toutes les périodes et qui font que Hildegarde, elle aussi, elle s'inscrit dans cet héritage nécessairement.
Il se trouve que la musique est un puissant révélateur, parce que la musique révèle ce en quoi les hommes croient, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs manières d'être avec les autres, parce que le lien social de la musique est très important, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui fait communauté. Lorsque une communauté possède un répertoire en commun, ça permet de passer du temps ensemble, de chanter ensemble. Et également, la musique et le chant en particulier est le porteur d'une mémoire.
Et la musique d'Hildegarde, que nous révèle-t-elle ?
C'est une personnalité qui, donc, de par son milieu, qui est un milieu aristocratique,
François Cam,
a de hautes aspirations de tous ordres. Des aspirations, on dirait aujourd'hui, éthiques, mais aussi, pour servir ces aspirations éthiques, des aspirations scientifiques, de connaissance du vivant et de la matière. Voilà, c'est tout cela. Donc c'est une passion pour la connaissance au service de l'éthique, au service de la vie éternelle, mais qui peut commencer d'une certaine manière déjà là, dans cette vie qui est la nôtre. Et donc c'est son projet, c'est d'arriver à créer de la beauté. Et donc, pour l'apprécier, il faut être en bonne santé, il faut avoir une bonne vie, malgré les difficultés, malgré les handicaps, malgré les parcours difficiles de certaines démoniales qu'elle accueillait dans son abbaye du Rupertsberg. Donc la musique fait partie, chez elle, de ce cadre. Et très tôt, elle y a été initiée par sa magistra, Jutta von Spanheim. Et la musique a été... depuis son adolescence, un sujet vraiment de préoccupation qui l'a beaucoup passionnée, qui a fait qu'elle est passée à la composition à un certain moment, sans doute parce qu'elle en éprouvait le besoin.
Et tout ça nous mène donc à l'église de Locmaria à Quimper.
On cherchait depuis longtemps, alors pour les besoins de notre recherche et notre transmission au public, et d'un film sur Hildegarde aussi, d'un film de fiction, et aussi d'un documentaire.
Géraldine Godefroy de Montbine.
On recherchait la perle rare. C'est vrai qu'en France, on a vraiment un patrimoine extraordinaire, un patrimoine du XIIe siècle, cistercien, bénédictin. Et l'idée, c'est d'aller à Bingen et de pouvoir, évidemment, essayer de se ressourcer, sachant qu'à Bingen, il y a évidemment l'énergie d'Hildegarde de Bingen, encore presque 1000 ans après. C'est évident. C'est en Rhénanie, donc c'est l'actuelle Allemagne de l'Ouest. Et alors, malheureusement, les abbatiales construites par Hildegarde, parce qu'il faut quand même dire qu'elle était aussi acousticienne, elle a vraiment donné des indications extrêmement précises aux architectes. Pour la durée du son, par exemple, il devait être de 9 secondes, donc il y a énormément de calculs mathématiques pour arriver jusque-là. Et c'était très important pour elle d'avoir vraiment la main aussi sur la résonance de l'église et différents paramètres sonores, parce que ces chants étaient vraiment prévus, écrits, pour ce type d'acoustique, c'est-à-dire une acoustique 12e siècle, une acoustique bénédictine, féminine, parce que c'est une abbaye essentiellement de femmes qu'elle a construite au Rupertsberg. Elle s'est échappée d'un monastère mixte. Elle a eu beaucoup de problèmes, d'ailleurs elle s'est opposée à sa hiérarchie pour aller fonder un nouveau monastère avec une vingtaine de moniales. Avec beaucoup de courage et de détermination, elle a été, grâce à une vision, appelée à construire cette abbatiale. Elle en a construit après une autre. Et elle a vraiment prévu, elle a vraiment, dans l'esprit de l'écriture de ses chants, été prévue pour cette acoustique. Alors pour revenir à notre Bretagne, en fait ce qui est miraculeux, proprement miraculeux, c'est que je me suis aperçue qu'à 2 heures de chez moi, il y avait un lieu analogue, ce qu'on appelle dans le milieu de l'espace, quand on veut faire des expériences sur Mars, en fait, on le fait dans le désert de l'Arizona, etc. Mais nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que juste à Locmaria de Quimper, c'est notre lieu analogue, c'est devenu notre projet, notre rêve. que d'expérimenter différents échantillons, et ça je vous en parlerai après, dans un lieu analogue, c'est-à-dire, c'est juste miraculeux, c'est-à-dire qu'on a une église bénédictine du XIIe siècle, féminine, c'est exactement les caractéristiques historiques, archéologiques et acoustiques des abbatiales d'Hildegarde de Bingen.
C'est important de chanter ces musiques dans une église, dans une acoustique.
Marcel Pérez.
Une église n'a pas une acoustique, c'est-à-dire elle a des caractéristiques générales, mais chaque lieu dans l'église sonne d'une manière différente. On entre en vibration avec l'église. Il ne faut pas oublier que la fonction première du chant liturgique, c'est de faire vibrer un lieu. Et donc c'est un rapport à l'espace, c'est un rapport au lieu. C'est pour ça que c'est dommage qu'il y ait des chaises dans les églises. Parce qu'avec les chaises, ça casse tout l'espace, on ne peut plus... explorer et puis créer cet état vibratoire grâce au chant dans les différentes dans les différents lieux et différents moments de la liturgie. Vous voyez, avant d'accéder à l'autel, on va d'abord faire le tour de l'église. Enfin, le maître de chœur, c'est le maître de cérémonie aussi, parce que c'est lui qui va déterminer tous ces temps et accélérer le chant ou le retenir pour que au moment du Magnificat, le soleil tombe sur l'autel. La même chose pendant la messe, au moment de l'offertoire, le soleil rentre par la première fenêtre qui est au sud-est et tombe sur l'autel. Donc on va calculer, on va ralentir un petit peu, ou alors on va aller un peu plus vite pour qu'au moment, quand ce moment arrive, vous voyez. Donc c'est ce qu'on appelait la symphonie. Symphonie, ça veut dire faire un son ensemble, phonos, synphonos. Hein. Et Hildegarde a intitulé son recueil de chants La symphonie des harmonies célestes. Et quand elle parle de céleste, c'est pas seulement le ciel abstrait, c'est aussi le ciel concret. C'est les étoiles, la lune, le soleil. Donc c'est la symphonie. Ce sont des chants qui vont nous unir à cette symphonie cosmique. Et c'est dans ce contexte qu'il nous faut voir des applications thérapeutiques. Mais après, on va aller vers les autres pour leur apporter une harmonie. Là, c'est cette idée de réharmoniser les choses, pas seulement comme dans la médecine moderne, de donner quelques molécules qui vont rééquilibrer les choses, mais de se recentrer, vous voyez, de se recentrer. Et donc les vertus thérapeutiques de la musique d'Hildegarde sont à voir dans ce grand horizon, cette grande perspective qui remonte à la nuit des temps.
C'est grâce à une chercheuse du Max Planck Institute en Allemagne qui m'a donné la piste méthodologique, c'est-à-dire qu'il fallait dans un endroit semblable, enregistrer différents types d'échantillons sonores comparables, et je reviendrai sur ce terme après, comparables dans les mêmes conditions écologiques, ça s'appelle comme ça. Dans les mêmes conditions écologiques, ça veut dire avec des interprètes, féminines, par exemple, qui chanteraient des chants différents mais comparables, donc monodiques, à savoir, nous, c'est un chant qui peut être chanté en solo ou en chœur, d'accord ? Et il faut que ça soit enregistré, que les échantillons soient enregistrés dans le même lieu. Sinon, on ne peut pas les comparer, bien évidemment. Et donc, ça permettait à cette chercheuse de recueillir différents types d'échantillons. Donc, Hildegarde de Bingen, on a choisi la Guerz avec Marie Berardi, qui est vraiment emblématique de la qualité sonore du chant breton, tout à fait, pour plein de raisons, en analogie avec Hildegarde, parce que d'abord, Marie Berardi, c'est une femme, elle a l'habitude, c'est une grande experte de ce chant, et elle a choisi précisément des Guerz qui se rapportaient à des saintes. Et donc, sur un thème, la thématique était commune.
Et c'est un voyage à la fois cosmique et spirituel. On va revenir sur ça. On y va tout de suite.
Moi, je suis Hélène Derieux et je suis chercheuse en musicologie médiévale. Je travaille sur le chant sacré médiéval et je travaille sur les acoustiques et comment faire sonner les acoustiques. Et je suis également là parce que je viens d'une famille bretonne du pays pagan et qu'il y a une tradition du chant. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont chanté dans ma famille. Et donc, je m'intéresse au répertoire des guerres et des cantiques et je le pratique à la mesure de mes moyens. Et notamment avec mon ami Bénéat, qui est ici.
Donc je m'appelle Bénéat Vialanex. Je viens de Roudoualec, près de Gourin, dans les Montagnes Noires, et je suis venu pour partager humblement quelques pièces du répertoire des cantiques bretons que j'interprète depuis longtemps. Et c'est vrai que je suis passionné par ces chants et leurs multiples versions qu'on peut entendre dans les différentes paroisses.
Des échantillons qui puissent être comparables. Donc le chant grec, comme a évoqué François Kamm, qui est un chant monodique aussi à l'origine. Puis différents types d'échantillons qui seraient enregistrés dans un même lieu et qui pourraient, dans une base de données, être comparés et utilisés dans des protocoles cognitifs. C'est-à-dire que les gens, voilà, ils écoutent des chants et on mesure, on peut mesurer par exemple leur pouls, leur battement cardiaque. Par IRM, vous pouvez voir quelles zones s'activent dans le cerveau en fonction des différents types d'échantillons. Voilà, ça c'est le rêve. Et donc là, on est en route vers ça. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'on a, on s'est adjoint à une musicothérapeute, qui permet d'observer aussi et de voir le rapport aussi psychoacoustique. C'est-à-dire quels effets sur les chanteuses, sur les chanteuses amateurs, le public qui est là, et pouvoir éventuellement les interroger lors d'un questionnaire. Voilà, ça c'est tout le travail d'un musicothérapeute. Donc en fait, c'est un spectre large. L'étalon, c'est juste notre curiosité et notre amour de la transmission.
C'était donc l'église ici d'un monastère de femmes, donc qui suivait la règle bénédictine. Donc voilà, les chants qu'on interprète sont assez en harmonie avec les bâtiments et l'histoire du lieu.
Je pense que dans le monde actuel qui est très intermédiaire, vous voyez, on a souvent, il y a des histoires de micro pour chanter, il y a de la musique enregistrée, on appuie sur un bouton, on a la musique. Les gens chantent assez rarement avec la voix nue a cappella dans une acoustique et les gens sont très à distance en fait de la musique. Et voire parfois, comme il y a beaucoup de musique en ligne, ils ne vont même pas au concert, même pas prendre la musique en direct. Et je pense que dans le monde actuel où on a ce fort degré d'intermédiation, c'est très important de réintroduire les choses qu'on fait en direct avec des gens, avec des voix, et qu'en fait, finalement, ce qu'on fait, au-delà de l'aspect vraiment culturel, patrimonial, et de recherche et artistique, c'est quelque chose de profondément humain, dont on a vraiment besoin aujourd'hui, ici et maintenant. Donc c'est hautement contemporain, on va dire, même si c'est très ancien comme répertoire.
Voilà, avec Hildegard, en fait, elle accueille principalement des aristocrates. Alors, c'est pas très populaire, mais parce qu'évidemment, ils apportaient une dot. Et du coup, son monastère est devenu florissant parce qu'il y avait forcément beaucoup d'argent. Et bien, un monastère est très confortable. Et toujours est-il que, voilà, elle a véritablement créé quelque chose d'extrêmement bénéfique pour ces femmes, quelle que soit leur situation, parce qu'il y a des situations très critiques d'aristocrates qui ont perdu la raison. Où elle était exorciste aussi, le garde de Bingen, donc elle a alors tout est noté, hein, on a tout sur l'île de garde en fait. C'était pour elle évident, nous on essaie de le prouver des fois très difficilement, mais c'était évident que le chant avait un impact sur la santé physiologique et mentale énorme. Et c'est pour ça que elle a créé ces chants. C'est pour la prévention, c'est pour éviter les maladies. Et quand la maladie est là, d'ailleurs, elle les appelle, la maladie, elle appelle les dissonances, donc elle donne même ce mot musical, eh bien, elle les soignait grâce au chant, grâce à ses plantes. Alors, tout le monde connaît, évidemment, Hildegard, ses plantes, ses tisanes, etc. Mais il faut bien savoir que dans les médicaments, tout à fait alternatifs, on dirait aujourd'hui, hein, il y avait évidemment le chant. Donc ça, c'est notre voie, c'est notre aventure, c'est de montrer à quel point ce chant d'Hildegard peut avoir un impact bénéfique sur la santé de différentes catégories de personnes.
Tous les grands concours musicaux de l'Antiquité, parce qu'il y avait, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, mais il y avait des Jeux Olympiques des musiciens. Vous voyez, on convoquait les meilleurs musiciens et pendant des journées, des nuits entières, ils animaient des foules dans des amphithéâtres qui parfois pouvaient atteindre 30-35 000 personnes. Il faut voir ce que c'était, ces grands amphithéâtres de l'Antiquité.
Marcel Pérez.
Et tous ces concours se déroulaient dans des centres thérapeutiques. En fait, c'est là où j'ai réalisé que la musique faisait partie d'une triade avec ce qu'on appelait les arts du mouvement, avec la poésie, la danse et la musique. C'était trois choses complètement liées. Et cette triade faisait elle-même partie d'une autre triade, la triade des sciences thérapeutiques. Et les sciences thérapeutiques, c'était la connaissance des plantes, la connaissance des animaux et la connaissance des arts du mouvement. En fait, on est dans un univers global.
Donc le chant, en fait, c'est, je dirais que c'est un besoin.
Hélène Derieux et Bénéat Vialanex.
Dans la nature humaine, ça fait vraiment partie des choses fondamentales. Et dans le monde contemporain, ben c'est vrai qu'en fait, on compte sur les machines, les instruments, les écrans, etc. Tandis qu'on a oublié qu'on est tous des chanteurs potentiels. Voilà. En breton, on fait la différence entre Ranner et Ranour. Ranour, c'est un chanteur de métier, un chanteur professionnel. Canner, c'est un chanteur. Tout le monde est canner. Et autrefois, on chantait tout le temps. On chantait au travail, on chantait à la veillée, on chantait à l'église. Donc c'est quand même une richesse qu'on a perdue, mais qu'on est en train de redécouvrir, ça, cette dimension du chant a cappella, comme ça, en un lieu. Parce qu'on habite le lieu de son chant.
À titre personnel, c'est ma manière d'être au monde, d'habiter le monde. Et c'est ma manière d'être vivante, en fait. Pour moi, le chant, c'est un métier. Et effectivement, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Mais je le fais vraiment parce que ça me permet de trouver ma juste place, tout simplement, dans ce monde, et de me sentir vivante. Et puis, dans un deuxième temps, puisque ça fait cet effet bénéfique sur moi, eh bien, j'essaye d'en faire profiter d'autres. Et je dirige des chœurs, des ensembles, je fais des stages. Et j'invite les gens à chanter le plus possible. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement humain, qui nous humanise, qui nous permet de créer une vraie communauté, ce qui n'est pas du luxe en ce moment, je pense, et qui est une... Je pense que c'est une nécessité pour le monde d'aujourd'hui, donc c'est à la fois ma place dans le monde et un genre de mission, on peut dire.
Ce reportage a été réalisé par l'équipe de Transistor, Marine Chanourdi, Maud Champagneur, Violaine Picot et Véronique Museau. Merci à toute l'équipe du projet de recherche Hildegarde de Bingen, mené par Géraldine Godefroy de Montbine, le HV Bingen Project. Merci aussi à Julien Bachelier, maître de conférence en histoire médiévale, et Arnaud Hibert, maître de conférence en histoire de l'art médiéval au Centre de recherche bretonne et celtique de l'Université de Bretagne occidentale.